Seigneur, nous voici rendus au moment où nous allons regarder ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Ta parole, Seigneur, qui veut nous transformer, nous changer, nous amener à être des hommes et des femmes réfléchis. Mais pas d'une réflexion humaine, Seigneur. Voir les choses de cette vie. Voir le monde sous ton œil à toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être des hommes et des femmes doux, souples, souples à ta main, Seigneur. Afin, Seigneur, pas que toi tu en tires les avantages, mais être souple à ta main, Seigneur, c'est nous qui allons en tirer les avantages. Nous, Seigneur, sur lequel ta bénédiction va s'étendre, Seigneur. Je te remets ce moment de la parole entre tes mains, ô Dieu. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis, vous pouvez prendre place, vous asseoir. J'oserais même demander si on peut m'apporter quelque chose pour déposer ma bouteille d'eau avant qu'elle glisse plus loin. Ça serait apprécié. Donc, on est rendu à notre dernier chapitre du livre de Jonas. On a vu Jonas, les différents angles dans lesquels Jonas s'est placé. Merci beaucoup, Eugène. Merci. Donc, on a vu comment le prophète a été amené à faire la volonté de Dieu. Comment le Seigneur sait aller nous chercher, aller nous prendre, aller nous chercher dans le lieu où nous sommes pour nous amener à sa volonté. Est-ce que vous croyez que si on a un cœur souple, le Seigneur peut faire de grandes choses au travers nous? Cet homme-là, Jonas, n'avait même pas un cœur souple. Et pourtant, le plus grand réveil de l'Ancien Testament, du monde connu d'alors, a été fait par Dieu, soyons clairs, mais à travers le prophète Jonas, qui a été annoncé à la plus grande ville sa destruction prochaine. Et pendant le temps où on a eu à prendre ce livre-là, je vous ai montré sous différentes formes la résistance de Jonas, l'appel de Dieu, comment Dieu persévère quand il appelle quelqu'un, même si cette personne-là n'est pas à la stature qu'elle devrait être. Même si la personne n'est pas à la stature qu'elle devrait être, n'empêche en rien le Seigneur d'interagir avec nous. Croyez-vous qu'on est digne par nous-mêmes, tous ceux qui m'écoutaient l'autre côté de l'écran ou ceux qui sont dans la salle, croyez-vous qu'on est digne de la présence de Dieu par nous-mêmes? La réalité, c'est que c'est non. Si nous n'aurions pas eu accès au salut par grâce, eh bien, le salut nous serait inaccessible. Il nous est accessible parce que Dieu ne s'est pas servi de nos propres forces, de notre propre vie, de nos propres valeurs, de nos propres mérites pour nous donner la vie éternelle. Et ceci étant bien là, n'importe quel réveil, petit, grand réveil, réveil sur une collectivité ou sur une seule personne, c'est Dieu qui sanctifie les vies. Et dans ce chapitre-là, 4, qu'on va lire en entier, ensuite de ça, je vais faire comme à l'habitude, je vais le morceler pour prendre des particularités du chapitre. Dans le dernier chapitre, on va voir la dernière réaction de Jonas, du prophète rebelle, on va dire ça de cette façon-là. Et comment Dieu prend le temps de l'éduquer. On est des fils et des filles du royaume. Et cette vie ici n'est pas vaine. Elle peut être vaine si on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Mais si on capte les tenants et les aboutissants, cette vie-ci devrait, je dis bien, un début en tout cas, devrait être de nous apprendre à régner sur nous-mêmes pour pouvoir régner dans le monde à venir. On va lire le chapitre 4 ensemble, le dernier chapitre. Je vous fais une lecture complète et suivant ça, on va, naturellement, on ne terminera pas ce soir, mais on va commencer suivant ça à regarder différents éléments. D'accord? Verset 1, chapitre 4 du livre de Jonas, après que le Seigneur ait, lui, sauvé les Ninivites, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel, il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? » C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et il dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Il faut être têtu, là. Et l'Éternel dit, « Tu as eu pitié du ricin qui ne t'a rien coûté. » qui t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Et ici, on va regarder certains points de ce chapitre-là. Pour clore, comme je vous ai dit, naturellement, nous ne ferons pas la clôture du livre de Jonas ce soir, mais on va prendre quelques aspects. On va regarder les manifestations, si vous voulez, dont Jonas a été au bénéfice, dont il a vu et dont il n'a pas apprécié ou reconnu à sa juste valeur les manifestations de Dieu. Pardonnez-moi. La parole de Dieu va nous montrer ici deux choses. Jonas a été rescapé de la noyade, si vous vous rappelez bien, ou d'être englouti par le grand poisson. Et Dieu a aussi rescapé les Ninivites d'un jugement. Ce n'est pas tout simplement Jonas qui a été rescapé d'un grand poisson, c'est plus de 120 000 hommes qui ont été rescapés d'un jugement par la prédication de Jonas, par la conviction qui a été donnée à ces gens-là. Si vous vous rappelez bien, on avait parlé quel type de peuple était Ninive. C'était un peuple sanguinaire qui avait mené des guerres avec des exactions, avec des cruautés innommables. Et on se dit, vous et moi, nous, on n'est pas comme ces gens-là. Là. On est du bon monde. D'accord? Mais quand on dit qu'on est du bon monde, avec quoi se calibre-t-on? Jonas s'était calibré, lui. Il va même oser dire à Dieu, « Quand j'ai fui à Tarsis, juste au cas où tu ne seras pas au courant, Dieu, là, je vais te mettre au courant d'une chose. » C'est exactement ce que je voulais éviter. Ce que tu es en train de faire là, mettez-vous là dans la tête de Jonas. Là. Jonas voulait que ces gens-là périssent. Souvent, comme nous, d'une autre forme, d'une autre façon, on a notre propre justice, on a notre justice propre. On dit à Dieu ce qu'il devrait faire. Donc, le ministère de Jonas, en fait, c'est un combat, je vous dirais, cœur à cœur avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu va dévoiler le cœur de cet homme-là et Dieu va lui dévoiler aussi le sien. Et bien souvent dans notre vie, c'est ce que le Seigneur fait. Il se dévoile à nous, mais quelquefois nous nous dévoilons très très peu, sauf dans des périodes difficiles, dans des périodes sombres. Je vous ai déjà raconté un peu l'histoire d'un couple que je suivais, qui n'était pas de cette église-ci. Et c'est pour ça que ça ne me dérange pas. Et ces gens-là, aujourd'hui, je crois qu'ils sont bien loin d'ici. Et à un moment donné, je me posais des questions et je me disais, pourquoi ils ont tant de misère à avoir de la croissance? Seigneur, il me semble sincère. Il me semble vouloir servir. Pourquoi que ces gens-là n'ont pas de croissance? Je ne semble pas avoir, Seigneur, de péché caché. Ça semble des gens transparents. Je ne comprends pas que je ne les vois pas cheminer. Jusqu'au jour. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu nous dit dans Pierre que le cœur se révèle dans le feu? Un homme, une femme se révèle dans le feu. Vous savez de quel feu on parle? Quand l'apôtre Pierre nous parle de cela, il nous parle du feu de l'épreuve. Vous pourrez aller le relire, il nous parle du feu de l'épreuve. Souvent, ce qu'on est va se révéler dans l'épreuve. Et je me souviens, à un moment donné, ils m'ont appelé, leur enfant a tombé malade. Et l'enfant était conduit à l'hôpital Sainte-Justine d'urgence. Les docteurs ils ont dit, bon, ce qu'il y a, c'est grave, il faut l'opérer d'urgence parce qu'il pourrait mourir. Et je me rappelle, dans la salle d'attente, cette femme-là, hors d'elle-même, elle s'est dévoilée. Après, je la connaissais peut-être depuis 5-6 ans, elle s'est dévoilée là. Elle s'est tournée vers son mari. Elle a dit, qu'est-ce qu'il fait, là, ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait, là, Dieu, là? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, là. Notre enfant va peut-être mourir, puis il fait rien. Elle a dévoilé, en fait, quoi? Que pendant toutes ces années-là, elle n'était que religieuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle n'avait adhéré que mentalement à la vérité, sans mettre son cœur à nu devant le Seigneur. Jonas, je vous ai déjà montré dans les autres leçons, il n'est pas devenu prophète cette journée-là. Là. Il était prophète avant ça. Hein? Rappelez-vous, je vous ai amené puis je vous ai montré que c'était le même Jonas qu'on trouve dans un autre livre de l'Ancien Testament qui a fait des prophéties. Mais son cœur n'était pas encore tout à fait dévoilé. Il se dévoile ici assez à nu. Où il va dire certaines choses à Dieu. On reprend les premiers versets. Quand il voit qu'il n'arrive rien aux Ninivites, ce donne des plus forts à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel, verset 2, il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu. » Donc, il savait des choses de Dieu, mais il ne savait pas beaucoup de choses sur lui. Là. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que qui se repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Et là, il se fit une cabane et il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait. Jonas va être fâché de ce qui va se produire, du fait que Dieu va agir avec miséricorde. Et pendant le 25 minutes que j'ai, je vais vous faire voir quelques formes de la vision de Jonas. Les spécialistes, pas moi, les spécialistes de l'hébreu nous disent que Jonas, quand il va parler dans ces versets-là au Seigneur, il va dire dans la partie C du verset 2, quand il parle à Dieu, il va dire « riche en bonté et qui te repent du mal que tu voulais faire ». Le terme « mal » ici, c'est « mauvais ». En fait, il y a un jeu de mots là-dedans qui a été traduit par « mal ». Le jeu de mots qu'on trouve là-dedans, c'est que le prophète mauvais, qui était Jonas, veut que Dieu punisse les mauvais. Tout en pas, et là ici je vous montre une facette, en ne pas voulant regarder sa propre méchanceté. Je vous ai déjà dit une fois que les deux apôtres que les gens appellent les apôtres de l'amour, là, Jean et son frère, dans les évangiles, veulent passer par une ville. Jésus veut passer par un bourg des Samaritains. Puis les Samaritains vont dire, où est-ce que vous en allez, vous autres? Ben, ils disent, on s'en va à Jérusalem. Je vous paraphrase. Vous l'avez lu, c'est dans l'Évangile de Jean. Ils disent, on s'en va à Jérusalem. Ils disent, vous ne passerez pas par notre bourg. Vous ne passerez pas par notre ville, par notre village. Et les apôtres vont aller voir Jésus. Puis ils vont dire, maître, veux-tu, Seigneur, qu'on commande le feu du ciel sur ce bourg de Samaritain-là? Et Jésus va leur dire, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et je vous avais déjà dit dans une prédication, si aujourd'hui on arrête ce pouvoir-là de faire descendre le feu du ciel, probablement qu'on serait à peu près tout seul qui se promènerait avec nos autos sur la route, là. Hein? Tous ceux qui nous ont coupés, feu du ciel, puis on s'en débarrasserait, là. Tu dis, ben non, on ne ferait pas ça. Rappelle-toi la dernière fois que tu as perdu patience contre un autre automobiliste. Tu vas dire, non, ça t'est arrivé à toi, pasteur André, mais pas à nous. Retournez dans votre pensée, peut-être ça ne fait pas si longtemps que ça. Soyons clairs. Quelquefois, on voit la méchanceté sur les autres. Et on ne la voit pas sur nous. Et il faut que le Seigneur nous amène à des endroits. Et ici, je prends une facette. Jonas. Dieu non seulement sauve une ville, mais est en train de dévoiler le cœur de Jonas. Jonas se disait, moi, je suis bon. Et c'est les mauvais qui doivent périr. C'est les gens de Ninive. Et Dieu va lui montrer, en fait, dans tout ce chapitre-là, qu'il n'est guère mieux que les gens qui sont venus condamner. Et quand on parle de cela, on est en train de parler du cœur même de notre âme. Et c'est souvent ce qu'on ne veut pas dévoiler. Au 41e jour, hein, 40 jours, puis Ninive va être détruit. Au 41e jour, il s'assit et il attend ce qui va se passer. Il y a des choses qui vont avoir roulé dans la tête. Là, je vais vous faire voir une autre facette. Si je vous dirais, moi, je suis prophète, je ne le suis pas, là. Okay? Mais admettons, je vous dirais, je suis prophète et je dis quelque chose qui n'arrivera pas. Là, je vais vous montrer une autre facette. Je vous montre un peu le cœur de cet homme-là. Et vous, vous dites, le pasteur André, il dit qu'il est prophète, puis il a dit que ça arriverait. Puis je viens vous dire, au 41e jour, Dieu ne le fera pas, il s'est repenti. Vous pourriez dire, c'est facile. Jonas était un homme normalement constitué. Et vous savez ce qu'on faisait avec les faux prophètes en Israël? Vous vous souvenez d'avoir lu dans Lévitique, Deutéronome, ce qu'on faisait avec un faux prophète? On lapidait, soyons clairs. Donc, cet homme-là, qui avait prophétisé dans son pays, s'en vient prophétiser dans un autre pays. Puis là, Dieu dit, ça n'arrivera pas. L'autre facette que je veux que vous voyez, Dieu est miséricorde. Et je vais vous donner plusieurs exemples là maintenant, où Dieu va dire telle chose, après ça, il va dire, je ne la ferai pas. Je ne la ferai pas parce que les gens se sont repentis. Selon les critères de Deutéronome 18, pour ceux qui prennent des notes, pour ceux qui prophétisaient sans réalisation de la prophétie, ils pouvaient avoir une peine d'associer à ça. Regardez bien, Jérémie, chapitre 18, verset 8. Je vous fais voir, là je vous ai montré une facette, le cœur de Jonas. La propre méchanceté qui l'habitait, lui se croyait juste, mais il croyait que les autres devaient périr, mais pas lui. Il voulait que sa prophétie se réalise. Regardez bien, Jérémie 18, 8. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Le terme ici, repentir, pour Dieu, ce n'est pas la repentance de vous et moi, là. OK? Ce n'est pas la repentance de vous et moi. Et pour vous donner un exemple plus terre à terre, là, on va aller dans 2 Samuel. Je vais laisser autant à la bien-aimée de le prendre. Chapitre 12, versets 14 à 23. Et je vous fais un peu la mise en place de ce qu'on va prendre là. David voit une femme qui se baigne. Et là, ici, je n'irai pas dans les détails. Est-ce qu'il l'a pris de force? Est-ce qu'il ne l'a pas pris de force? Il a fait venir chez eux. Il a des relations intimes avec elle. Mais cette femme-là est mariée à un homme qui est à la guerre, qui s'appelle Uri. Je vous le donne rapidement, là. Et David apprend que la femme est enceinte et il décide de faire assassiner l'homme. Hein, il commence par le vouloir l'envoyer chez lui, là, et ensuite, ça ne fonctionne pas. À la fin, il décide de le faire tuer. Et le contexte que je vous donne là, on va lire le texte maintenant. La femme, ensuite de ça, il fait venir Bathsheba chez lui. Puis là, il dit, ben, j'ai réglé le problème. Regardez bien. Verset 14 de 2 Samuel 12. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point, il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Comment oserions-nous lui dire que l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort? » Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, se oignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges? » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait, et c'est le cœur de la chose, là, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Donc, David, il y a une attitude qui va l'amener à commettre un péché. Et si vous vous rappelez bien, là, Nathan se présente devant lui, il dit, un homme avait 100 brebis, l'autre avait une brebis. Celui qui avait 100 brebis reçoit des gens à manger chez lui. Il ne veut pas prendre de ses brebis. Il envoie chercher la brebis de celui qui a juste une brebis. Il a fait tuer pour la manger. Et c'est là que je vais vous montrer le cœur de l'homme. Est-ce que vous vous rappelez de la réaction de David? Vous irez le lire à la maison. Il se leva de son trône et dit, cet homme mérite la mort. C'est ce qu'il dit, là, David. Cet homme mérite la mort. Il applique un jugement à autrui alors qu'il a fait la même chose. Ce que Nathan a fait, a dévoilé David, aurait pu lui coûter la vie, parce que David était roi. David a eu tout de même la réaction de repentant. Je veux juste vous faire voir quelque chose. David, Jonas, on peut avoir une vision de la justice. Vous comprenez? On peut avoir une vision de la justice qui n'est pas celle de Dieu. Et on peut se complaire de dire, « Ben moi, je suis un enfant de Dieu, je vis saintement. » Si Dieu nous dévoilerait, si Dieu dévoilerait les pensées de nos cœurs, si Dieu dévoilerait certaines de nos actions, je vous ai donné cette histoire-là de David pour vous montrer quel type de personne peut faire quoi. Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que Dieu appelait David? J'ai choisi David, fils d'Ésaïe, homme selon quoi? Homme selon mon cœur qui accomplira tous mes desseins. Si je vous le prendrais là, dans le texte original, puis on le défrait, il n'était pas en train de dire que David ne pêchera pas, là, Dieu, quand il a dit ça. Puisqu'il fait tuer Uri, puis il vole sa femme. Quand on parle de deux poids, deux mesures, faites attention quel type de jugement. Quand on est dans le ministère, quand on est pasteur, on est appelé à rencontrer beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes en situation des fois difficile, en situation précaire. Et j'ai dit, je disais à un pasteur, l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de juger les gens. On juge les actions. Je n'ai pas le droit de juger une ou un bien-aimé. Là. Je peux lui dire, ce que tu as fait là est mal. Ce que tu as fait là, selon les normes bibliques, est péché. Mais, allez, vous ne me direz pas que vous ne l'avez jamais fait non plus, là. Hein, des fois, on regarde quelqu'un, mais lui, là. Pas ceux qui est converti, pas ceux qui vont aller au ciel. Il se dirige peut-être directement en enfer. C'est peut-être un religieux. Tu as peut-être raison, mais ce n'est pas à toi de juger ça. Tu peux juger l'action qui est non conforme. Tu peux avoir des doutes sur le salut de quelqu'un. Mais, en tout cas, je suis content que ce n'est pas moi qui choisis qui va au ciel et qui va en enfer, là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jonas se croyait plus juste que les Ninivites et Dieu va le dévoiler. David, homme selon le cœur de Dieu, a fait assassiner un homme pour couvrir son péché. Et David, qui connaissait le Seigneur, dit dans la partie B du verset 22, après vous l'avoir mis en contexte, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? » Dieu est un Dieu de miséricorde. Jonas ne voulait que de la miséricorde que pour lui-même. Il ne la voulait pas pour les Ninivites. Et une preuve que je vais prendre, d'après vous, dans l'Ancien Testament, qui était le pire roi qu'il y a eu dans l'Ancien Testament? C'est Akab. Akab, c'était tout un numéro, là. Lui et sa femme Jézabel, là, c'était tout un duo, là, ces deux-là ensemble. Aller relire dans les rois la vie d'Akab, la parole de Dieu nous dit que c'est un méchant roi. On va tourner dans 1 Roi, chapitre 21, où on nous parle, justement, à propos d'Akab. 1 Roi 21, à partir du verset 27 à 29. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils, qui est encore pire, c'est une expression que j'emploie, que je ferai venir le malheur sur sa maison. Achab s'est repenti, et même si Achab, je ne l'aurais pas calculé comme un bon roi, Achab va trouver grâce devant Dieu. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes heureux? Parce que cette grâce-là, tu en as eu besoin, et moi aussi. Tu en as peut-être eu besoin aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as fait de ta journée. J'ai eu une journée, j'ai essayé de prendre ça un petit peu relax parce que j'avais pas eu vraiment beaucoup de temps et que j'avais eu une nuit agitée, soyons clairs. Et quand j'essayais souvent, à un moment donné, j'étais dans mon bureau, je fermais les yeux. Et on est des humains. Hein. Souvent, les situations des gens me reviennent. Et j'ai déjà dit, Seigneur, si tu ne serais pas avec nous en tant que dirigeant de l'Église, soyons clairs, ce n'est pas de la faute de l'Église, là. C'est notre faute à nous autres. C'est parce qu'on retient les choses, mais on peut devenir fou. Là. L'Église peut avoir notre peau. Là. Et on ne parle pas des gens littéralement, on parle des situations. S'il y a repentance, qui on est, nous, pour retenir quelqu'un? Comprenez ce que je veux dire? Si Dieu donnait de la repentance à ton pire ennemi, tu vas dire, j'ai pas d'ennemi, pasteur André. Fouille un peu. Si Dieu donnait repentance à une personne qui t'aurait fait beaucoup de mal, quelle serait ta réaction? Comment tu prendrais ça? Est-ce que tu serais d'un style David ou d'un style Jonas? C'est « Seigneur, tu ne peux pas le bénir de même, il faut que tu y tapes sa tête à lui. » Vous comprenez? C'est exactement ce que Jonas a demandé. Je vous donne une autre histoire, il me reste 10 minutes. L'histoire d'Ézéchias. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias qui est dans 2 Rois, chapitre 20. On va prendre juste les versets 1 à 6. 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 6. En ce temps-là, et vous irez lire après, là. Vous ferez une lecture personnelle. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, verset 4, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. » J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai et le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Vous irez lire là pour vous-même. Et effectivement, Ézéchias avait mené une vie assez droite, une vie assez dans les normes des bons rois d'Israël. Mais le dernier 15 ans qui lui a été accordé, c'est là qu'il a gâché les choses. Dieu ne pose pas de gestes pour rien. Allez voir suivant la vie d'Ézéchias, ce qui reste après ça de sa vie, les 15 années que Dieu y rajoute. Vous allez voir que ça va être dur ce que je vais dire là. Il aurait été mieux de partir avant ces 15 ans-là. nous comprenons, nous prophétisons, nous savons en partie. Si Dieu venait le chercher, il y avait une raison. Si Dieu laissait les Ninivites, et j'en reviens à notre histoire de Jonas, là, je vous donne le troisième prisme, troisième vision. Si Dieu laissait les Ninivites là, sur terre, s'il pardonnait le péché, même si le but qu'on voit, parce qu'on sait que quelques centaines d'années après, ils vont envahir Jérusalem, même ça, Dieu a des raisons. Il n'y a rien qui échappe à la volonté souveraine de Dieu. Tous ceux que je viens de nommer, là, dans Roi, Akab, David, Ézéchias, ils ont tous eu le bénéfice de cette clause-là qui est dans l'Ancien Testament. Celui qui se repent et revient de ses mauvaises voies, Dieu peut changer d'idée. Est-ce que vous vous rappelez l'avant-dernier message que je vous ai laissé? Je vous parlais du Dieu de la deuxième chance. Quand je vous dis, Dieu n'en a pas fini avec nous, accepte que les choses, quelquefois, ne se passent pas à ta façon. Sois humble, sois souple, parce qu'il doit y avoir quelque chose que le Seigneur a à t'enseigner, à te montrer. Comme il a fait avec Jonas, les gens de Ninive, malgré leur barbarie, la torture qu'ils avaient faite, je vais vous dire ça comme ça, la différence de conséquences pour Jonas avait rien à voir avec la nature des Ninivites. Effectivement, il venait du peuple élu. Effectivement, il regardait des gens qui avaient commis des grands péchés. Mais ces gens-là s'étaient repentis. Le pasteur Florent, déjà enseignant, à un moment donné, il disait « La repentance est une affaire de tous les jours. » C'est-à-dire, chaque fois qu'on s'aperçoit qu'on s'est éloigné de la voie. Jonas s'entête dans le chapitre 4 qu'on est en train d'étudier. Et ça n'empêche en rien Dieu de travailler avec lui. Les trois facettes qu'on a vues ce soir, à ce niveau-là, de Jonas, que Dieu cherche à lui faire voir des choses. On va se rendre un peu plus loin, pas aujourd'hui, mais tous nos actes à nous de rébellion, je ne vous demanderai pas de lever la main. On a tous connu des moments de rébellion dans nos vies. À moins que la personne s'est convertie et est morte le lendemain. Là. Généralement, quand on a le temps de cheminer, on a tous des moments de rébellion. Et la rébellion vient d'un cœur impénitent, vient d'un cœur qui pense qu'il a raison. On peut s'être révolté contre son église, on peut s'être révolté contre son pasteur, un pasteur peut se révolter contre sa congrégation. Peu importe. Au lieu de chercher, il me fait ça, on devrait plutôt chercher, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à aller puiser là-dedans? Et c'est l'erreur de Jonas ici. Il ne regarde que son point de vue, sa vision, et il dit, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est comme ça que ça devrait faire. Dieu devrait agir de telle ou de telle façon. Il est vrai qu'il existe des conséquences différentes selon le péché. Il y a des conséquences différentes selon le péché qu'on reprendra dans mon autre intervention, Dieu voulant. Mais selon la même Bible que nous lisons tous, Dieu ne nous a pas pardonné à cause qu'on était bon. Il nous a pardonné à cause de sa grâce. Donc, que notre nature divine en nous, on la cultive, mais elle ne vient pas de nous. Elle nous a été donnée gratuitement. Je disais à quelqu'un hier que j'ai rencontré, je disais, ce que tu cultives, c'est ce que tu vas avoir. Si tu cultives la chair, tu vas avoir de la chair. Si tu cultives de l'esprit, tu vas avoir de l'esprit. Jonas, je vais vous le dire comme ça, mis à part avec son propre peuple, cultivait une certaine, en parenthèse, une certaine haine qui l'aveuglait. Allez relire tout Jonas, c'est juste 4 chapitres. Il cultivait une certaine amertume, et je vais terminer avec ces choses-là. Cet homme-là, malgré que Dieu lui parle, malgré que Dieu intervient, cultive quelque chose pour en arriver à être aussi obtus, fermés. J'ai déjà dit à un homme qui est proche de moi, que je ne vous dirai pas c'est qui, c'est pas un des pasteurs de l'Église, là, soyons clairs. J'ai déjà dit à cet homme-là, lorsque je marchais avec lui, je lui ai dit, tu ne peux plus apprendre. Pas parce que tu es rendu au bout de ta connaissance, là. Et c'est un homme qui connaît l'Évangile. Je lui ai dit, parce que tu es obtus, mon ami. Et j'ai dit tel quel. Tu es obtus. Je te faisais par là. J'ai en bon français, tu es bouché. On ne peut plus rien rentrer. Ton idée est faite sur tout. C'est pour ça que tu as le jugement aussi facile. Ils ont un tel dans l'autre. C'est pour ça que tu as le jugement aussi facile. Parce que tu regardes que ta vision. Et c'était le problème de notre ami Jonas. Et je vais m'arrêter ici en vous disant, il faut bien comprendre, si je mets une goutte de poison dans votre nourriture, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est mal? Oui. Est-ce que ça va vous tuer? Non, peut-être pas, juste une goutte. Si je verse la bouteille, je veux vous faire quantifier une chose, il y a une différence. Il y a une différence entre mettre une goutte de poison dans la nourriture de quelqu'un et verser une bouteille de poison dans sa soupe. Là, tu vas le tuer. Jonas voulait que ces gens-là meurent à cause de sa propre vision à lui. Et c'est pour ça qu'il est fâché. Il est fâché parce que les choses ne se passent pas selon sa vision à lui. Et on va en revenir là-dessus dans l'autre semaine. On va arrêter ici. Pensez juste aux trois exemples que je vous ai donnés. Jonas voit le mal ailleurs, mais ne voit pas dans son propre cœur. Et c'est là-dessus que je vais revenir à ma prochaine intervention. Voit le mal ailleurs, mais ne voit pas le mal en lui. Et je vous donne à réfléchir là-dessus. Donc, on va tout simplement se lever, on va prier. On a atteint l'heure à laquelle vous allez pouvoir retourner à la maison, vous reposer. N'oubliez pas de revenir en forme pour le 31. Donc, on va se tenir debout quelques instants. On va tout simplement incliner la tête. Et je vous dirai, pas ici. Je vais vous laisser partir, je vais tout simplement prier. Vous devriez faire une certaine introspection face à vous-même. Regardez pas votre conjoint, ou regardez pas votre voisin, ou regardez pas nous. Jonas voyait le mal des autres. Il ne voyait pas son propre mal dans le chapitre 4. Il ne voyait pas qu'il était atteint lui aussi d'un propre mal. Seigneur, tout simplement, nous avons regardé du moins commencer à regarder au Dieu ce chapitre-là, qui va être la conclusion du livre de Jonas, qui sera par le fait même la conclusion de l'enseignement que je dispense depuis un certain temps concernant le livre de Jonas. Non pas, Seigneur, que j'ai eu l'intelligence de concevoir cela. Moi-même, je l'ai puisé, mais je croyais utile à ton peuple de leur donner, Seigneur. Seigneur, donne-nous de l'intelligence spirituelle, qu'on puisse avoir des yeux aussi introspectifs chez nous, comme on a pu avoir des yeux inquisiteurs pour regarder les autres, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de la sagesse en cela. Je veux tout simplement remettre ton peuple à une saine réflexion, Seigneur, à une bonne réflexion. Seigneur, je te demande de bénir ce peuple, Seigneur. Bénis ceux qui étaient ici, Seigneur, en direct. ce qui est à mon avis de beaucoup préférable, mais bénis aussi ton peuple qui est à la maison, même ceux qui écouteront en différé, Seigneur, qu'ils puissent avoir un bon moment de réflexion. Peut-être sommes-nous des Jonas potentiels aux yeux. Non pas en tant que prophète, mais peut-être de façon caractérielle, en tant que vision. Je te demande de raccompagner ton peuple, de garder ton peuple, de protéger ton peuple, Seigneur, en ces derniers jours de l'année, Seigneur. Je les remets entre tes mains. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Bon retour à la maison à tous. N'oubliez pas, on se retrouve 31. Soyez bénis.